BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui parle argent et qui parle de vos placements. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours entre 10h et midi sur BFM Business, mais on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. Les taux semblent suivre une tendance baissière, en tout cas bien entamée depuis la fin 2023. Est-ce que c'est le moment de concrétiser vos projets d'investissement immobilier ou faut-il attendre une baisse plus forte des prix ? Stéphane Imovitz du groupe Ikori avec nous et avec Marie Cœur de Roi. Le question du jour portera sur les fonds euro 2024. Est-ce la renaissance de ces fonds ? Quelle place dans votre stratégie d'investissement ? Romain Joudla de l'équipe Colbert avec nous pour répondre à vos questions. Et puis aujourd'hui, on investira dans le vin avec un angle patrimonial. Comment se construire une cave avec un marché du vin qui lui aussi est baissier, avec une nette tendance baissière. On parlera des bouteilles qui sont parties le plus cher aux enchères cette année. Et puis comment vous pouvez vous positionner par rapport à cela. Au programme, il y a vous aussi, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Merci pour votre soutien. Vous pouvez nous écrire par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Pour l'heure, 11h07, on part à Euronext. Rejoindre Antoine. À Euronext, où Antoine est aux premières loges pour observer un rebond qui s'intensifie nettement à Paris depuis qu'on s'est parlé il y a une heure. On est de nouveau au-dessus des 8000 points.
Absolument, Lorraine. 8017 points, on a une hausse d'1,07%. Et alors, regardez, on fait le double de la croissance sur les autres places européennes, plus 0,54% pour le DAX à Francfort, l'Eurostock 50, plus 0,58%. Alors, bien sûr, le CAC 40 est soutenu par le secteur du luxe, hein, sa plus forte pondération sectorielle, avec les bonnes nouvelles en provenance d'LVMH, hein, publication des chiffres d'activité hier soir, qui sont salués par le marché. Et d'ailleurs, le titre n'en finit pas de grimper, il gagne maintenant quasiment 4%, plus 3,8%. On est à 811,70 €. Et évidemment, le reste du secteur du luxe est bien orienté, notamment Hermès, plus 1,8%, 2331 €. On a L'Oréal aussi, plus 1,37%, à 420,75 €. En revanche, quelques titres à la baisse à signaler, notamment Téléperformance, moins 1,9%, 87,14 €. On a le secteur techno qui est plutôt pas très bien orienté. Capgemini, moins 0,68%, à 203,50 €. Et Dassault Systèmes, moins 0,33%, à 38,70 €. On est dans le sillage des performances publiées par ASML dans les semi-conducteurs qui baissent de plus de 4% à la bourse d'Amsterdam. On y reviendra dans quelques secondes, mais c'est une dynamique importante qui est à scruter sur les marchés. Plus forte hausse du SBF 120, c'est CGG, plus 4,9% à 44 €. En revanche, perspective décevante pour De Richbourg qui est sanctionné par la bourse ce matin, moins 4,6% à 4,17 €, a signalé Orpea avec un avertissement sur ses résultats. Le titre perd 2%. À 10,95 €, le CAC plus 1,11 €, on est au plus haut de la séance, là, à 8020 points, et l'euro 1,0638 $.
Voilà, le CAC de retour grâce au luxe, la plus grosse pondération LVMH qui est autour de plus 3,9%. Justement, LVMH, on va en reparler, c'est l'heure de votre histoire du jour.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
LVMH, oui, mais aussi ASML, parce que, pour le dire un peu familièrement, il y a à boire et à manger, et surtout quelques indications, peut-être pour la tendance boursière des mois à venir, si on analyse ces publications LVMH et ASML d'une part et d'autre.
Oui, avec même une confirmation des tendances qui étaient observées lors de la publication des résultats annuels, il y a quelques semaines, les résultats annuels 2023, vous allez voir. En fait, LVMH, bon, c'est vrai qu'il y a toujours de la croissance dans le secteur du luxe, et pour LVMH, oui, elle est en train de ralentir, notamment à cause de la Chine, et c'est une source de préoccupation de la part des marchés, étant donné que LVMH, ou l'ensemble du secteur du luxe, est quand même très très bien valorisé, donc des multiples qui justifient une certaine exigence de la part des investisseurs. Enfin, maintenant, on le voit, le groupe reste solide et bénéficie encore une fois de son très fort taux de redistribution, puis de l'attrait imbattable de ses marques. Donc, le titre est bien orienté. Maintenant, si on regarde ASML, là non plus, il n'y avait rien de monstrueux ou de spectaculaire dans l'annonce de ce matin. Simplement, on voit la rentabilité qui est en train de baisser un petit peu, et surtout, on voit un chiffre d'affaires qui a du mal à redécoller et qui est attendu stable. sur l'ensemble de l'année par rapport à 2023. Alors pour ASML, qui est quand même le leader mondial des machines pour faire les microgravures sur les composants électroniques, hein, enfin, tout le monde a besoin d'ASML, que ce soit les Nvidia, les Intel, les Soitec, les STMicroelectronics, qu'il n'y ait plus de croissance, que la croissance cale comme ça, c'est une source d'inquiétude. Et puis fondamentalement, si on rejoint un petit peu les deux propos avec LVMH au début, on se retrouve dans une situation, on en parlait d'ailleurs avec Alain Pitous une des dernières fois où il est venu à cette antenne à votre table, c'est qu'on se retrouve avec un tissu d'entreprise qui dégage de très belles profitabilités, de très belles marges, mais tout ça avec une activité qui a tendance à stagner, à ralentir, voire même à reculer. Ouais. Et ça, ça donne des perspectives boursières qui changent beaucoup de choses aux yeux des investisseurs, c'est-à-dire qu'il va falloir plus miser maintenant sur la capacité des entreprises à maximiser leurs profits dans un univers de taux qui reste encore relativement tendu, qui a beaucoup, beaucoup de mal à se détendre, alors singulièrement du côté des États-Unis, mais ça se voit aussi en Europe, on voit du côté du 10 ans français qu'on est côté des 3%, ça c'est pas bon pour les valeurs de croissance. Et maintenant il va falloir faire confiance aux entreprises en matière de dégagement de profit. C'est pas très enthousiasmant de manière générale, mais c'est peut-être les nouveaux fondamentaux de la croissance qui nous attend ces prochains mois.
Merci beaucoup Antoine pour cette histoire financière en demi-teinte. On le comprend, les tendances qu'on pourrait observer dans les prochains mois sur les marchés. Cette histoire est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web et notre application. Antoine, on vous retrouve un petit peu plus tard, mais en tout cas certainement demain dans notre émission. Un petit mot d'ailleurs de pétrole et d'or, parce qu'un auditeur me fait remarquer qu'on n'a pas parlé depuis ce matin. Écoutez, du côté du baril, ça rebaisse. Le Brent est autour de $89. Alors, on se parle. Le WTI autour de 85. Et puis, l'or, effectivement, qui ne bat pas encore de nouveaux records pour l'instant, autour des $2400 l'once. Voilà pour le point matière première, cher auditeur. À tout de suite pour parler immobilier dans Tout pour investir.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
C'est l'heure de l'IMO, comme tous les jours, dans Tout pour investir. Il faut évidemment avoir le regard de Marie sur ces taux qui bougent, qui frétillent. Qu'est-ce qu'il faut dire comme verbe, là ?
Il faut dire que ce qu'on dit depuis trois mois, effectivement, c'est confirmé. On a eu les chiffres de Crédit Logement CSA, en fait, qui ont été publiés hier et qui nous disent quoi ? Ces chiffres qu'en mars, on a atteint 3,82% précisément de taux d'intérêt moyen sur 20 ans. On est à 3,9 toutes durées confondues. Donc, on est repassé clairement sous les 4%. Même sur les crédits longue durée, c'est assez intéressant. Mmh. Si on regarde les crédits au-delà de 25 ans, vous avez les trois quarts des emprunteurs à date qui empruntent sous 4% sur des crédits au-delà de 25 ans. Donc, ça vaut le coup d'être souligné. Après, il faut quand même un tout petit peu relativiser cette baisse de taux. D'abord parce que effectivement, elle n'est là que depuis trois mois. Ensuite, malgré tout, bon an, mal an, on n'est quand même toujours pas très loin des 4%. Et je rappelle qu'il y a trois ans, on était à 1%. Donc on a des taux qui ont quasiment quadruplé en l'espace de trois ans. Donc c'est un petit peu mieux qu'en fin d'année dernière. C'est pas la panacée non plus. Il n'empêche, on a une reprise aussi de la production de crédit, parce que forcément, qui dit assouplissement du côté des taux d'intérêt et aussi de l'apport personnel, faut le dire quand même. Mmh. Les banques continuent à réclamer de l'apport, c'est vrai, mais moins qu'avant. Ça fait quoi ? Ça fait qu'on a plus de crédits qui sont distribués. Alors, d'un trimestre sur l'autre, c'est assez spectaculaire. Forcément, si je regarde le dernier trimestre 2023, qui était cataclysmique par rapport à ce premier trimestre 2024, là, on a une hausse du nombre de prêts accordés de plus de 46%. Mais si je regarde sur un an, on est encore en nette baisse d'environ 20%. Donc, on va relativiser, c'est-à-dire que c'est un frémissement, c'est le début du rebond, on va le dire comme ça. Maintenant, le vrai problème, ça va plus passer du côté des crédits, et je le dis depuis assez longtemps, c'est-à-dire que ce qui a été problématique l'année dernière, c'est la rapidité de la hausse des taux. Mmh. C'est pas le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, il va falloir s'accoutumer de ces taux autour de 3-4%, peut-être qu'on descendra autour de 3,5%, peut-être 2,5%, mais des taux à 1%, a priori, sauf catastrophe majeure à l'échelle internationale, c'est pas prêt de revenir. Donc les taux, il faut les assumer maintenant tels qu'ils sont et faire avec. En revanche, il y a un vrai sujet du côté des prix de l'immobilier. Sur l'ancien, il y a un vrai sujet de conviction des vendeurs qui pensent encore qu'on peut faire comme avant. Ce n'est plus le cas. Il va falloir qu'ils acceptent de baisser leurs tarifs. Je dis à ceux qui pourraient me critiquer que ceux qui ont payé ultra cher en 2021, c'est pas les plus nombreux à vendre aujourd'hui. Oui. Donc ceux qui vendent aujourd'hui, c'est quand même des gens qui vont quand même faire une plus-value, peut-être moins importante que s'ils avaient vendu en 2021, mais ils vont quand même faire une plus-value. Et on leur rappelle que souvent, quand ils vendent un logement, c'est pour en racheter un autre. Donc, ce qu'ils vont baisser du côté du tarif de ce qu'ils sont en train de vendre, ils vont peut-être l'obtenir aussi de ce qu'ils vont racheter derrière. C'est ce qu'on appelle la fluidité du marché et retrouver un tout petit peu raison dans ce marché immobilier.
Voilà le regard de Marie Cœur de Roy sur l'orage qui s'éloigne doucement, on espère sûrement, du crédit immobilier. Pour parler justement de ces achats dans l'ancien et de globalement investir dans l'immobilier résidentiel, nous accueillons notre invité Marie-Stéphane Imovitch. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes président et directeur général du groupe Icori. Votre regard peut-être sur cet état du marché. Et avec vous, on va essentiellement parler du résidentiel. Alors donnez-nous le pouls de ce marché résidentiel.
Le marché résidentiel, effectivement, comme Marie l'a dit, est un marché qui souffre depuis un an et demi, lié à la remontée des taux. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique n'est pas tant le niveau des taux, puisqu'on a connu des taux bien supérieurs. Mmh. Je me souviens d'il y a à peu près 12-13 ans, on était à des taux qui étaient proches de 8%. Et c'est plutôt la rapidité. Et je pense que la rapidité, c'est un sujet parce que... finalement, que ce soit 4%, que ce soit 8%, que ce soit 1%, la problématique, c'est la solvabilité des ménages. Et donc, la solvabilité des ménages, aujourd'hui, elle va se faire, bien sûr, par un atterrissage sur les prix. Donc, on commence à sentir un atterrissage sur les prix, qui, dans certains cas, peut être relativement significatif. Cet atterrissage sur les prix, il est doublé par la problématique des diagnostics de performance énergétique, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les DPE rentrent fortement en considération dans l'élaboration d'un prix d'appartement ou de maison.
Et plus on avance, plus ils comptent. C'est-à-dire, plus l'échéance des interdictions des passoires thermiques à la location approche, plus les décotes sont importantes sur les biens les plus mal notés.
Absolument, vous avez totalement raison. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on peut trouver des décotes de 10, 15, voire 25% sur les biens les plus mal notés. Alors la problématique, c'est bien sûr une problématique de prix de vente, mais la problématique derrière, c'est la problématique du locatif. Parce qu'il est bien évident, je voudrais rappeler quand même un point qui est important, 90% des bailleurs sont privés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des institutionnels,
ce sont
les particuliers.
C'est gentil de le rappeler.
Et les particuliers, bien évidemment, sont souvent, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont tendance à penser, ce ne sont pas des rentiers, ce sont des gens qui sont des vrais bailleurs, ce sont des gens qui ont envie de mettre en location leurs biens parce que c'est un complément, notamment pour leur retraite.
Et oui, on pense à tous les retraités bailleurs. Il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Louis, qui vous a écrit, Marie, et qui parle de raquettes fiscales sur les retraités bailleurs.
Effectivement, comment vont faire ces bailleurs privés qui sont souvent des gens relativement modestes, comment vont-ils faire pour pouvoir financer ces travaux, parce que très souvent ce sont des biens qui sont mal notés et s'ils sont mal notés, ils ne vont plus pouvoir les louer.
Et c'est ce que j'allais dire, avant que ce soit une problématique locative, comme vous avez dit, entre les deux il y a une problématique travaux, réalisation de travaux, budget de travaux, et donc c'est une couche de plus dans le sandwich.
C'est une couche de plus dans le sandwich.
En même temps, les gros sandwichs c'est très bon, mais...
et en parallèle, il faut savoir que les travaux, quand vous faites passer un bien de G pour le faire passer à D...
Quand vous tentez de passer de G à D...
Quand on tente de G à D, il faut compter entre 40 et 50 000 euros pour un logement de taille intermédiaire. Donc c'est un coût très important. Alors quand on est... les investisseurs institutionnels, ils ont déjà réalisé très souvent les travaux, donc il n'y a pas de problématique pour ce type de bailleur. En revanche, les particuliers, c'est un vrai souci. Et ça, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience, faute de quoi on va se retrouver vers une crise du locatif comme précédent.
On y est déjà. Hein, quand on regarde, juste vous baladez dans les villes tendues, je pense à Paris, mais pas que, où il y a des marchés locatifs qui sont nés, même dans des villes un peu plus moyennes ces dernières années, et que vous voyez les devantures des réseaux d'agences immobilières avec écrit « on n'a pas de bien à louer », il y a quand même un vrai problème. Mais bon, bref. On parle de l'ancien et des problématiques de l'ancien. Comment ça va du côté du neuf?
Côté du neuf, la problématique est encore plus difficile, si je puis dire. Ne serait-ce qu'on n'a qu'à voir qu'au cours de l'année 2023, les ventes ont baissé de 37%. Alors qu'au cours de l'année 2023, toujours, mais sur l'ancien, on n'est qu'à 27%. Donc,
J'aime bien faire de la pédagogie. Vous le savez, Marie est une pro de l'immobilier. Vous aussi, cher Stéphane. Mais l'ancien, là, pour ceux qui nous écoutent, qui suivent cette séquence au quotidien, qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous un petit peu.
L'immobilier ancien? Ben, ce sont des appartements qui ne sont pas neufs, des biens qui ne sont pas neufs.
A priori, qui sont sortis de terre depuis au moins 5 ans, on va le dire comme ça.
Ils sont sortis de terre depuis au moins 5 ans. Alors ensuite, on fait la distinction entre le récent, le neuf, l'ancien. Mais disons que l'ancien, c'est le patrimoine classique que l'on peut voir un peu partout dans les villes, et souvent ancien, qui nécessite des travaux, bien évidemment.
Et cette définition changera peut-être quand il n'y aura plus aucun neuf qui sortira du sol.
Oui, mais ce sera assez dramatique, parce qu'en l'occurrence, faire du neuf, c'est aussi faire du performant énergétiquement, compte tenu de la réglementation.
Exactement.
C'est aussi ça qui est assez dramatique. Mais justement, sur le neuf, on a l'impression quand même que malgré tout, à chaque fois, je tire sur les vendeurs d'anciens, mais on a le sentiment quand même que l'ajustement à une phase compliquée est plus simple dans l'ancien que ça ne l'est dans le neuf, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui, il est plus simple parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que les promoteurs ont très souvent acheté des fonciers à des prix extrêmement élevés, c'est le premier point. Deuxième point, les promoteurs ont des coûts de fabrication de l'immobilier beaucoup plus élevés compte tenu des normes. Donc ce double facteur a un impact très fort, et donc très souvent ils ont difficulté à baisser leurs prix véritablement, faute de quoi ils perdent énormément d'argent.
Là, ce qu'on voit quand même, parce que j'avais appelé il y a quelques semaines un spécialiste de cet immobilier neuf qui me disait c'est la foire fouille. Vous allez sur tous les sites de promotion immobilière, c'est je t'offre 5000 euros, 20000 euros par pièce, je t'offre les frais de notaire, je compense les avantages qui disparaissent sur le Pinel, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est symptomatique de cette crise sans précédent là pour le coup que sont en train de traverser les promoteurs immobiliers?
Je pense que les promoteurs traversent une crise sans précédent. Pour les raisons qu'on a évoquées, parce que aussi il faut savoir que le foncier reste très cher, et aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de promoteurs préfèrent renoncer à des acquisitions de foncier tout simplement parce que les vendeurs ne sont pas prêts à baisser le prix du foncier, et donc on va se retrouver dans une situation dramatique, et dramatique surtout dans les années à venir, parce que les promoteurs ne vont pas construire, ne vont pas acheter de foncier, donc ne vont pas construire, et donc on se prépare une crise du neuf encore pour plusieurs années.
Mais faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Parce que c'est vrai qu'on fait ce constat quasiment quotidiennement dans l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la machine, en fait ?
Ce qu'il faut faire pour relancer la machine ?
Relancer un Pinel.
Je suis pas sûr que ce type de d'approche soit suffisante. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut inciter des bailleurs à revenir sur le marché. Alors, ça passe par les bailleurs institutionnels, bien évidemment.
Ça, pour le coup, on peut pas dire que le gouvernement n'est pas là.
Oui, sur le logement, alors notamment sur le logement intermédiaire, parce qu'on a besoin énormément de logements intermédiaires. J'écoutais ce matin le fait que en matière de logement HLM, un député a souhaité que ce soit plutôt dédié à un certain nombre de fonctionnaires. C'est une bonne chose.
C'est déjà le cas, hein, c'est ça qui est assez
alors, terrible. C'est déjà le cas, mais pas complètement. J'ai travaillé dans une société de logement social et je voyais comment les attributions se faisaient. Donc c'est pas uniquement sous cette forme-là, mais il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un statut pour les bailleurs qui soit un statut pérenne, avec une fiscalité pérenne, et pas des mesures qui sont des à-coups en fonction du nom du ministre du logement en question.
La visibilité, donc vous dites, de la stabilité.
Ouais, donc vous dites, non mais je rejoins la question que posait Lorraine, c'est-à-dire vous dites plus de Pinel dédié au neuf, mais un statut du bailleur privé qui concernerait à la fois ceux qui achètent pour investir dans le neuf et à la fois ceux qui achètent pour investir dans l'ancien.
Absolument.
Ce serait quoi ? Ce serait, par exemple, typiquement la performance énergétique qui pourrait concerner aussi bien le neuf que la rénovation.
Ça pourrait être la performance énergétique. Ça pourrait être une modération dans les loyers. On peut très bien assortir ce type de statut avec une modération dans les loyers.
Ça existe déjà, ça ?
Ça existe pas de manière aussi claire. Et puis, ça peut être aussi selon la durée du bail. Aujourd'hui, un particulier peut faire des baux pour 3 ans. Un institutionnel fait des baux pour 6 ans. On peut très bien imaginer des baux long terme, ce qui permettrait aussi de sécuriser les locataires.
Bien sûr, et qui éviterait justement les bifurcations sur du meublé courte durée, etc.
Absolument. Et alors, là aussi, on s'aperçoit que le fait qu'il n'y ait pas une vraie politique du logement en France fait que, naturellement, on se retrouve avec tous les effets pervers que l'on peut trouver, et notamment les baux civils, à des prix absolument démentiels. Donc, aujourd'hui, il faut prendre en considération, je reviens sur cette notion, le bailleur privé n'est pas un rentier, le bailleur privé est un élément économique qui va permettre de favoriser le locatif en France, et il doit être assorti de conditions. Ça peut être des conditions de loyer, ça peut être des conditions de durée, ça peut être des conditions sur le plan énergétique. Et c'est tout ce qu'on essaie de proposer au pouvoir public actuellement.
Bon, et donc, d'ici qu'on obtienne ça, parce que moi, j'y crois même plus, je suis un peu négative. D'ici qu'on obtienne un statut du bailleur privé, qu'on ait une vraie politique du logement, tout ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ? Est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ?
Alors, je pense que c'est un moment intéressant pour investir. D'abord, vous le soulignez, baisse des taux. On arrive à des niveaux de taux qui sont tout à fait compatibles. Baisse des prix également, les prix commencent à baisser. On s'aperçoit, globalement en France, les prix ont baissé de 4%. Mais si on regarde les zones tendues, et je pense à la région Île-de-France et notamment Paris, on est sur des baisses de prix beaucoup plus significatives. Mmh. On arrive à 9% de baisse de prix. C'est-à-dire qu'on est passé en dessous de la barre des 10 000 euros sur Paris. On est à 9 600 ou 9 700 euros le dernier trimestre. Et là, on va passer vraisemblablement à 9 400 euros. C'est ce que la Chambre des notaires nous indique. Donc, il faut retrouver une certaine solvabilité. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut profiter justement du fait qu'on a des logements qui ne correspondent pas aux normes, faire des travaux, pouvoir déduire les travaux, etc., etc. Donc, on est dans un moment tout à fait intéressant. Et on est dans un moment intéressant pour l'ancien. On est dans un moment qui commence à être intéressant pour le neuf, puisque un certain nombre de promoteurs assortissent les ventes avec quelques avantages.
La foire fouille, comme dirait Marie.
Voilà. Et puis enfin, il y a aussi toute la vente des lots occupés. Et la vente des lots occupés, ça peut être très intéressant parce que...
Un logement dans lequel j'ai déjà un locataire.
Un logement dans lequel déjà j'ai un locataire. Je peux mesurer la fiabilité du locataire. J'achète un peu moins cher qu'un logement libre et je perçois des revenus immédiatement.
Voilà, on a apporté quelques éléments de réponse à la question, est-ce que c'est le moment ? Le timing est-il le bon pour concrétiser vos projets d'investissement que peut-être vous avez mis de côté pendant de longs mois, pendant peut-être quelques années, si vous sentez que vous avez raté la fenêtre des taux à 1%, et où est-ce qu'il faut attendre encore plus de baisse de prix ? Voilà, on vous a donné des éléments de réflexion, maintenant à vous de passer à l'action. Merci Marie Cœur de Roy, merci beaucoup Stéphane Imovic, du groupe Ikori, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent, I-K-O-R-Y. L'immobilier, c'est tous les jours à 11h15 sur BFM Business et vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast sur notre plateforme. Vous restez avec nous, nous marquons une rapide pub et après ça, on s'occupe de vous de répondre à vos questions sur les fonds euros. Vous savez, ils ont la cote, ces fonds euros, en 2024. Décryptage, réponse à vos interrogations. Quelle place dans votre stratégie d'investissement ? Même question pour le vin. En fin d'émission, nous serons avec Angélique Delanxin d'Ideal Wine qui va nous parler de l'état du marché du vin, un marché orienté à la baisse, lui aussi. Il n'y a pas que les taux qui baissent. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir, peut-être en fonds euros. Enfin, ne mettez peut-être pas tout sur vos fonds euros. C'est ce dont on va parler avec Romain Joudelat dans les prochaines minutes. Bonjour Romain.
Bonjour Lorraine.
Co-fondateur de Colbert. Et oui, ces fonds euros, ils renaissent finalement en 2024. On parle d'eux en bien. Donnez-nous un petit peu de contexte. Ils étaient où ces fonds euros et pourquoi on en parlait plus trop ou pas de la même manière dernièrement?
Oui, c'est vrai. Alors, pour une fois, on ne va pas parler d'actifs risqués, effectivement. Et je pense que c'est quand même un sujet important. Puisque déjà, il faut le rappeler, ça concerne 78% des encours en assurance vie. Ouais. Et par ailleurs, c'est 1400 milliards en termes d'épargne au niveau français. C'est quasiment le triple des livrets A cumulé même au livret de développement durable. Et c'est d'autant plus intéressant puisque aujourd'hui, depuis 2022, on a eu une hausse des taux d'intérêt qui a bouleversé un peu le monde de l'épargne, dont les fonds en euros qui en profitent puisque les rendements s'améliorent. Et tout ça même dans un contexte où il y a quand même des conflits géopolitiques, il y a des marchés actions qui ne cessent de progresser avec une volatilité, des incertitudes qui ne sont pas encore parfaitement maîtrisées. Donc le fonds en euros trouve sa place dans une allocation d'actifs.
Bon, on va faire un petit peu de pédagogie parce qu'effectivement, ces fonds euros, on en parle, on les associe souvent à l'assurance vie, à une partie de l'assurance vie. On les oppose souvent aux UC, aux unités de compte. Un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent et qui débarquent.
Ouais, bah alors vous faites bien de le rappeler. Effectivement, déjà, le fonds en euros, très clairement, c'est un fonds spécifique qui est géré par des compagnies d'assurance. Donc vous le retrouverez jamais dans un PEA, dans un compte titre, ça sera dans des contrats d'assurance vie, éventuellement des contrats de capitalisation ou encore des PER. Et la spécificité en fait de ce fonds d'investissement, c'est qu'il est investi avec un mandat particulier puisqu'il est garanti en capital. Ça veut dire que peu importe, si vous voulez, l'évolution des marchés financiers, votre capital investi en fonds en euros ne bougera pas.
C'est comme un peu un livret à l'intérieur de votre assurance vie.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène où les taux d'intérêt, les intérêts également du fonds en euros, en fait, se rajoutent au capital année après année, sans payer la fiscalité puisque c'est capitalisé, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Et on peut aussi le comparer, je pense, au livret A, dans le sens où on parle souvent des 8 ans de l'assurance vie, mais rappelez-vous aussi que ces 8 ans, c'est lié à un dispositif fiscal avantageux et non pas à une illiquidité de vos disponibilités. Donc, comme le livret A, vous pouvez en bénéficier à tout moment.
On peut rentrer et sortir.
Tout à fait.
Il faut le rappeler, cette liquidité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les performances des fonds euros, si on fait un petit peu d'historique sur l'horizon de temps qui vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors, peut-être déjà un point, revenir peut-être sur les moteurs de performance et le fonctionnement de ces fonds en euros pour bien les comprendre. Déjà, les fonds en euros, en fait, sont constitués, donc sont gérés par des compagnies d'assurance qui ont un mandat de garantie en capital. Donc, quand on a un mandat de garantie en capital, quand on est gérant professionnel, on va aller investir sur des actifs qui sont peu risqués, principalement du monétaire, des obligations, d'État, un petit peu d'obligations d'entreprise également, et puis pour une plus petite partie, des actions de l'immobilier, voire des fonds alternatifs. Donc en fait, une fois qu'on a compris effectivement la composition de ces fonds en euros, ben, on en comprend aussi le moteur de performance. Et en fait, il y a réellement deux moteurs de performance, c'est là où ça va être un petit peu plus technique. Il y a le moteur de performance qui est lié effectivement à la performance des actifs détenus par le fonds en euros, donc ça va être les revenus fixes, des obligations, de l'immobilier, etc. Mais aussi l'évolution en capital de ce portefeuille financier qui va prendre de la valeur année après année. Donc ça, c'est le premier moteur plutôt classique lié aux actifs. Le deuxième moteur, c'est également la politique en fait de gestion et commerciale de la compagnie d'assurance vie. Alors là, je vais parler de jargon parce qu'on va parler de provision pour participation aux bénéfices. Je vous la fais courte. L'assureur a la possibilité en fait de choisir s'il verse la totalité ou partiellement des profits aux assurés ou alors s'il en met une partie en réserve. Et ces réserves, il peut les distribuer quand il le souhaite sur une période de 8 ans. Et je vous rassure aussi, c'est les assurés qui, si vous voulez, sont propriétaires de ces réserves dès lors qu'ils restent effectivement sur cette période.
Voilà, d'où l'importance de ces 8 ans.
Exactement.
Qui ne doivent pas être une barrière psychologique, mais simplement voilà, un horizon de temps et donc qui doit vous encourager peut-être à prendre date dans votre assurance vie.
Tout à fait.
Bon, on parlait d'un placement historiquement prudent, ça c'est sûr, mais historiquement attractif. Aujourd'hui, mi-avril 2024, le fonds euros est-il aimé ou mal aimé?
Les fonds en euros, je pense, commencent à reprendre des couleurs. Et d'ailleurs, par le passé, je pense qu'ils ont été plutôt mis à mal par la baisse des taux d'intérêt. De nombreux investisseurs se plaignaient des performances des fonds en euros. Parfois même, finalement, aller chercher du risque sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier pour aller chercher justement des rentabilités supérieures. Néanmoins, déjà, historiquement, quand on compare en fait les performances du fonds en euros par rapport aux liquidités, alors quand je dis liquidité, c'est liquidité rémunérée, soit le livret A ou les comptes à terme, bien entendu. Et bien, en fait, en absolu, elles paraissaient faibles dans un environnement de taux bas, mais en relatif, elles étaient élevées. En fait, il n'y a que 2 années sur 15 où le fonds en euros a une performance inférieure au compte à terme. C'est en 2008, et en 2023. Et en fait, si vous voulez, la raison, elle est simple. C'est que les taux d'intérêt ont très fortement bougé en 2022. Ils ont monté très, très fortement. Et donc, ça s'est retraduit, ça a bouleversé le marché de l'épargne. Ça se retraduit directement dans l'épargne réglementée et les comptes à terme qui ont remonté leur taux d'intérêt très, très rapidement. Vous, en tant qu'épargnant, vous alliez à la banque, vous pouviez ouvrir un livret à 3% ou avoir un compte à terme à des niveaux de rendement supérieurs. À l'inverse, quand vous alliez investir dans un fonds euro, même en 2023, les taux étaient meilleurs qu'en 2022, mais ils sont encore de 2,5%. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, je le disais, ce monde de l'épargne, il a été fortement bouleversé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mécanique en fait des taux d'intérêt et comment ça influe sur votre épargne. La mécanique de taux d'intérêt, je le disais, a fait qu'une hausse des taux d'intérêt vous a permis d'avoir un livret A qui rapportait de 1% à 3%. Mais ça a aussi bouleversé le monde du marché obligataire et même de l'immobilier. Le monde du marché obligataire, bah, à l'époque, ça rapportait 0%. Quand les taux sont à 3%, quel est l'intérêt de prendre un risque pour avoir du 0%? Aucun. Et quand l'immobilier rapportait 4,5% avec un taux sans risque à 3%, on peut commencer à se poser des questions, effectivement, sur l'intérêt de ce type d'investissement. Les investisseurs, comme vous, étant rationnels, ils ont fortement, en fait, impacté à la baisse les valorisations de ces actifs. Donc, les obligations ont très fortement chuté en 2022, ce qui a permis de rendre, en fait, les rendements beaucoup plus attractifs. Et donc la rentabilité exigée des actionnaires, des investisseurs.
Voilà l'histoire du regain d'intérêt de ces fonds euros. Maintenant, on va parler stratégie. On va parler des choix qu'il faut faire pour ces fonds euros à l'intérieur de nos portefeuilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Romain ?
Alors, je pense que ça dépend de votre cahier des charges. Votre cahier des charges, il dépendra bien entendu de votre horizon d'investissement, mais aussi de votre profil de risque, comme d'habitude. Le point important, c'est que si vous avez un horizon d'investissement qui est flou, qui est plutôt court, moyen terme, il est clair qu'on va privilégier une pondération forte en fonds en euros. Et pour ça, en fait, on peut profiter aujourd'hui d'une part d'un rendement qui s'est amélioré. Je le disais, 2,5% en moyenne en 2023, et ça va continuer en 2024, puisque le rendement des obligations, en fait, est plus élevé, et le stock d'obligations va se renouveler au fur et à mesure. Et en plus, on a des compagnies d'assurance, en fait, qui viennent également booster, en fait, cette performance via des politiques commerciales, ce qu'on appelle des taux bonifiés. Alors, je m'explique, puisque là, c'est un point qui est assez intéressant, puisque le commercial rejoint, si vous voulez, l'intérêt de la gestion. La compagnie d'assurance vie va, si vous voulez, vouloir investir progressivement sur des rémunérations plus élevées des obligations, on le disait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer l'argent des épargnants. Et pour ça, donc, elle va vous faire profiter de taux bonifiés. Donc, vous
super
auriez eu...
boost.
Voilà, exactement. Donc, vous aurez eu un taux de rentabilité de 2,5. Et ben là, on vous propose un taux de rentabilité de plus de 4%, voire parfois sur certains contrats de plus de 5% sur la base du taux de rentabilité de l'année dernière, sous réserve que vous investissiez quand même un petit peu en UC. Donc ça, quand on a un investisseur qui n'a pas trop de visibilité sur sa durée d'investissement, aujourd'hui on peut faire une allocation d'actifs avec une grosse partie de fonds euros, avec une rémunération brute supérieure à 5%, et des fonds prudents qui viennent compléter cette allocation et qui ne viennent pas bouger trop le profil de risque. Donc ça, c'est pertinent.
Romain, très concrètement, pour finir cette séquence, est-ce que vous pouvez nous aider à choisir notre fonds euros? Qu'est-ce qu'il y a comme grille de lecture à avoir?
Oui, alors... Au-delà de cette logique à court-moyen terme, il y a aussi la logique à plus long terme de considérer le fonds d'euro comme une brique, si vous voulez, pour gérer vos risques et protéger votre capital.
Pour diversifier.
Exactement. Donc, ce qui va être intéressant pour choisir son fonds en euro in fine, ça va être déjà de choisir le bon contrat. Parce que, attention, si vous choisissez un fonds euro et donc, in fine, un contrat sans regarder les frais du contrat, sans regarder l'univers investissable, le jour où vous allez changer de profil de risque et vous allez vous retrouver à sélectionner des fonds qui ne sont pas pertinents ou chers, malheureusement, vous allez être obligé de le casser et de payer la fiscalité.
J'ai déjà mal à la tête rien que de penser au fait que je les prends ou pas fait, moi.
Exactement. Donc, prenez date, mais choisissez le bon contrat et, in fine, regardez le fonds en euros. Donc là, plusieurs choses à regarder. La performance passée, regardez pas uniquement la performance 2023, parce que vous l'avez compris, les compagnies d'assurance peuvent effectivement distribuer des réserves et booster parfois cette performance. D'ailleurs, regardez ce niveau de réserve. Si vous amusez, que vous êtes un passionné de la finance, regardez les rapports annuels de ces compagnies d'assurance vie, vous aurez la possibilité même de regarder le niveau de réserve.
Sinon, et du coup d'anticiper peut-être des super boosts pour l'année suivante.
En tout cas, de connaître le confort effectivement des compagnies d'assurance vie. Si ça vous chagrine, allez voir votre conseiller, il le fera pour vous. Au-delà de ça, il y a aussi deux autres sujets à regarder, c'est la composition du fonds en euros. Ces 10 dernières années, avec la baisse des taux, il y a eu une diversification très très forte, avec parfois des fonds en euros qui sont allés beaucoup sur des actions, beaucoup sur de l'immobilier, des actifs liquide. Attention, surtout si ces fonds en euros n'ont pas un grand succès commercial, parce qu'ils peuvent être justement dans une situation plus compliquée. Et pour finir, regardez le succès commercial des fonds en euros qui sont dans votre liste. Pour une simple et bonne raison, plus ils collectent, plus ils investissent sur des meilleures rémunérations, plus votre performance future sera meilleure.
Il y a un cercle vertueux, ce que vous nous dites, c'est ça?
Exactement.
Bon, un dernier mot sur la taille du fonds. Et oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a une taille minimum en dessous duquel on ne va pas?
Alors, c'est comme tout fonds d'investissement, alors généralement on peut regarder quand même des fonds en euros qui pèsent plusieurs milliards d'euros, hein, en dessous c'est quand même petit et c'est souvent des fonds en euros qui vont se constituer. Alors les petits fonds en euros ont l'avantage de se constituer plus récemment avec des taux de rentabilité du coup meilleurs liés à la rentabilité actuelle des obligations. Par contre, ils vont être beaucoup plus volatiles et sensibles à l'évolution des marchés. Donc quand on investit dans un fonds en euros, on n'investit pas pour faire un pari. Donc, aller chercher plutôt des fonds en euros plus importants, plus significatifs et très bien diversifiés.
Voilà, comment choisir son fonds euro avec Romain Joudelat de l'équipe Colbert. On regarde le contrat, on regarde les petites lignes, on regarde de près les performances passées et pas que celles de 2023, parce que vous avez entendu, voilà, les fonds bonifiés viennent peut-être biaiser cette performance. Et puis, la composition, évidemment, les petites lignes et puis la taille du fonds. Voilà quelques informations qu'on pouvait vous apporter sur ces fonds euros, quelle place dans vos investissements en 2024. Et bien sûr, ce qu'on dit est vrai, là, mi-avril 2024, pour ceux qui nous écouteraient en différé. Merci Romain et toute l'équipe de Colbert d'avoir été avec nous. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Si vous avez attrapé en cours de route cette interview, vous la retrouverez sur le site et l'application BFM Business. Il reste encore une interview dans Tout pour investir. Nous allons parler investissement thématique aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse au vin, justement, dans un marché baissier, car oui, le marché du vin est en baisse. Comment réfléchir à construire une cave dans une logique patrimoniale, construire ou étoffer une cave? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite.
Tout pour investir, l'investissement iconique.
Nous allons parler de votre cave. D'ailleurs, demain, on parlera investissement dans les caves au sens propre, dans les caves, les parkings, les box. Mais là, on va parler de votre plus belle cave, votre cave à vin, avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique.
Bonjour Lorraine.
Ou ce qui reste d'Angélique, parce qu'Angélique est comme beaucoup d'entre nous, est souffrante. Merci d'être avec nous néanmoins, chère Angélique. Vous êtes directrice générale déléguée d'Ideal Wine. On va parler de comment réussir ses placements dans le vin, dans un marché baissier. Je faisais une petite note d'humour tout à l'heure assez douteuse sur le fait qu'il n'y avait pas que les taux qui baissaient. Le marché du vin aussi connaît une tendance baissière. Vous allez nous raconter ça. Vous êtes venu avec un baromètre que vous faites tous les ans. Donc, on a quelques chiffres en plus pour illustrer cela. Par quoi on commence? Peut-être donnez-nous le pouls de ce marché, justement. Comment ça se fait que ça baisse? Qu'est-ce qui baisse? Expliquez-nous.
Alors, l'année dernière, effectivement, sur un échantillon assez vaste, hein, puisque sur la plateforme d'Ideal Wine, il y a un peu plus de 220 000 bouteilles qui ont été adjugées. Ce qui fait d'ailleurs d'Ideal Wine le premier acteur des enchères de vin en France. Le prix moyen des bouteilles adjugées, qui avait, il faut le dire, atteint des records en 2022, hein, 194 € en moyenne la bouteille adjugée. Ce prix est retombé à 152 € en 2023, soit une baisse de 22%. Certes, c'est un chiffre global, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse, elle s'est quand même concentrée sur les domaines dont le prix avait le plus explosé en 2022.
Exemple.
Surtout, en fait, des domaines, on parle, il y a des domaines emblématiques, ce qu'on appelle les Big Eight. Il faut savoir que sur ces huit domaines qui ont enregistré vraiment des très fortes baisses, six sont issus de Bourgogne. Hein, vous avez le domaine Le Roy, le domaine d'Auvenay, le domaine Roumier, le domaine Rousseau, le domaine Bizeau et le domaine Lachaud. Donc, six domaines bourguignons auxquels viennent s'ajouter les vins de Château Rayas et de tous les vins produits par ce producteur Emmanuel Reynaud et la Grange des Pères en Languedoc. Donc, voilà, très concentré sur la Bourgogne. La Bourgogne qui concentre quand même 40% de la valeur adjugée l'année dernière. Hein, c'est une bouteille sur quatre qui est un Bourgogne.
La première donc, région des enchères. Le dire comme ça.
Alors, la première région en valeur, sachant que en volume, c'est Bordeaux qui reste la première région.
Bon, voilà quelques enseignements qu'on peut tirer. 2023, ce n'est pas une année comme les autres. Mm-hmm. Alors, on l'entend, les prix sont un petit peu descendus, Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de 2023 et qui nous permet de prendre le pouls?
Oui, alors 2023, c'est vrai que ça a été une année vraiment de réajustement très net, d'accalmie très forte des cours sur, encore une fois, sur les excès, enfin les excès de 2022 qui ont été corrigés, gommés au cours de l'année. Pour autant, le marché a retrouvé son niveau d'équilibre et aujourd'hui, on est dans une situation où on parle de marché baissier, mais en fait, on est surtout dans un marché qui, à nouveau, a retrouvé un dynamisme important. J'en veux pour preuve le nombre d'enchères qui sont portées sur chaque lot. Hein. Vous avez en moyenne plus de 3 enchères par lot, ce qui signifie que l'intérêt revient. Et également un intérêt qui est mondial sur les vins, puisque vous avez 67 pays qui enchérissent et les 2/3 des vins en valeur qui sont achetés par des amateurs étrangers. Donc cet engouement qui revient sur les vins aujourd'hui montre que c'est vraiment, il est urgent de s'intéresser à ce marché, parce qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir, mais les prix sont susceptibles de remonter.
Quand on parle prix élevé, on pense aux grands crus. Cette tendance baissière, elle se lit particulièrement sur les grands crus?
Alors, elle se lit sur, effectivement, dans chaque région, souvent les icônes de chaque région sont celles dont les vins ont vu leur prix effectivement baisser en 2023. D'où de belles opportunités effectivement d'achat.
Est-ce qu'il y a des régions en particulier que vous pouvez partager avec nos auditeurs où il reste des opportunités d'achat?
Alors tout dépend de votre profil. En fait, si vous avez un profil prudent, vous allez vous concentrer sur les 3 grandes régions qui sont traditionnellement les plus présentes dans les ventes aux enchères. Je pense à Bordeaux, on l'a dit, la Bourgogne et la vallée du Rhône, qui ont représenté l'année dernière 73% des volumes adjugés et même 81% de la valeur. Et si vous avez un profil plus dynamique, un peu plus joueur, là vous allez vous intéresser à toutes les autres régions, puisque nous en passons une quinzaine en revue dans notre baromètre pour la France, plus l'Italie et les pays étrangers. Donc, vous allez vous intéresser à la Loire, au Languedoc, à la Corse, au Jura, bien sûr, parce que depuis quelques années, c'est un Eldorado. Et aussi, on en a déjà parlé, à la Savoie.
À la Savoie, oui.
Sans oublier, donc, des régions qui peuvent sembler beaucoup plus mineures en termes de volume adjugé, mais qui recèlent chacune des producteurs phares, qui sont vraiment des locomotives dans leur région. Et c'est d'ailleurs un des grands intérêts de ce baromètre, c'est d'aller identifier dans les ventes aux enchères les domaines qui ont suscité un engouement un petit peu particulier, dont nous dressons la liste. Et là, alors, on vous donne les noms. Après, il faut aller les trouver.
Un tout petit mot rapide sur tout ce qui est vin bio, en biodynamique, voire, not my favorite, les vins nature. Est-ce que, là aussi, vous suggérez qu'il faut regarder de près parce que ça gagne en potentiel?
Alors, ce sont effectivement, la proportion de ces vins-là a continué à croître l'an dernier. Elle est passée de 25 à plus de 28% des vins adjugés. Tous les vins ne disposent pas d'un label, hein, ne le revendiquent pas, mais tout en étant conduits de façon extrêmement raisonnée. Donc, l'appréciation de ces vins-là et du critère biodynamique, voire naturel, est différent d'une zone à l'autre. Par exemple, l'Europe du Nord est très sensible aux vins en biodynamie. Les Américains recherchent des vins nature très pointus. L'Asie marque moins d'intérêt, va rechercher plus la renommée d'un terroir, d'un domaine. Donc finalement, ces appréciations sont variées, mais tout de même, elles se rejoignent sur le haut du podium, parce que si vous prenez les vins les plus chers adjugés l'an dernier, la plupart sont conduits en bio, en biodynamie.
Bon, on va finir cette séquence de manière très pratico-pratique, comme j'aime le faire, Angélique. On est dans une logique de constitution de cave. Bon, d'abord, il y a quelques critères à respecter que vous allez nous rappeler. Et surtout, avec tout ce que vous nous avez dit, comment on fait pour intégrer les régions peut-être moins cotées dans notre cave, tout en n'oubliant pas d'investir sur les iconiques, pour parler un peu comme dans le luxe? D'abord, les critères à respecter pour construire une cave, rappelez-les-nous.
Mais disons qu'il y en a Il y en a trois principaux. Le premier, c'est, pardon, mais c'est très basique, c'est d'avoir une cave. Une bonne cave, avec des conditions de conservation qui vont vous permettre de garder vos vins sans les altérer. Hein. Donc, température, hygrométrie et sécurité. Le deuxième, c'est le temps. Il faut avoir du temps. Il ne faut pas considérer l'investissement vin comme un investissement de court terme. Il faut vous donner un objectif de 8 ans, 10 ans, parce que vous avez des frictions, vous avez des frais à l'achat, à la revente, qui vont devoir être lissés dans le temps et qui vont, parce qu'ils vont peser sur la valorisation. Et puis le dernier critère qui est très important, c'est qu'il faut avoir un intérêt réel pour le vin. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aller rechercher les bons millésimes de garde. Il ne faut pas se tromper, puisque c'est un investissement qui n'est pas de court terme. Il faut choisir des vins dont le potentiel est important.
La revente comme et surtout à la dégustation.
Absolument. Et puis, il faut aussi peut-être se renseigner pour aller rechercher un peu avant tout le monde les domaines qui demain vont être les stars. Donc ça, tout ça, ça nécessite effectivement de se cultiver, de suivre et de s'informer. C'est vraiment les trois critères principaux.
Angélique, le mot de la fin sur du coup, comment on répartit dans sa cave les différentes régions dont vous nous avez parlé. Est-ce qu'il y a une allocation idéale en pourcentage?
C'est toujours intéressant de suivre, je trouve, la répartition qui a été enregistrée au niveau de nos enchères l'an dernier, parce que c'est un petit peu la cave idéale. Mm-hmm. Je vous ai parlé de donc, ces trois quarts pratiquement qui sont consacrés aux trois régions classiques. Bourgogne, après, Bordeaux, je dirais que c'est vraiment, il faut constituer la cave que l'on rêve de goûter un jour. Parce que ça va vous amener à aller faire vos recherches, à aller vraiment vers les vins que vous rêvez d'ouvrir un jour. D'ailleurs, au passage, si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, vous aurez toujours un énorme lot de consolation qui consistera à ouvrir la bouteille. Donc ça, rien que pour ça, c'est important de suivre ça. Après, vous avez un certain nombre de critères, vin rouge, vin blanc, accorder une part importante, croissante même peut-être au vin blanc, puisque la consommation tente à se développer pour cette couleur de vin, en lien avec le réchauffement climatique, on recherche des vins plus frais. Et puis ce critère bio, bien sûr, qui doit aussi guider vos choix.
Voilà, faites votre cave en fonction de ce que vous avez envie de boire. Ce sera ça le mot de la fin de cette chronique. Merci Angélique.
En toute modération,
j'ai des instructions fermes de BFM Business. Bien sûr, il ne faut pas trop boire. L'excès d'alcool est dangereux pour la santé. Et vous savez tout ça. Néanmoins, c'est une bonne manière de parler d'économie, de parler du vin et de placement. Merci beaucoup Angélique Delanxant, directrice générale déléguée d'Ideal Wine, d'avoir été avec nous sur cette séquence. C'est la fin de Tout pour investir, mais ce n'est pas la fin de vous devant BFM Business. Sandra Gondon nous a rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme avec vous qui démarre dans 4 minutes.
Il démarre dans 4 minutes et les JO, c'est dans 100 jours. Et c'est ça dont on va parler. Ben oui, je suis désolée, l'organisation des entreprises va s'en ressentir au niveau du personnel, au niveau des horaires, au niveau des transports, au niveau de toute votre organisation. Vous avez des questions à ce sujet, vous nous les posez avec vous à bfmbusiness.fr. Nos experts se sont préparés spécialement pour vous et pour ce sujet, pour répondre à toutes vos questions dans un instant.
Évidemment, à moins que vous viviez dans une cave et que vous soyez sourd, vous êtes au courant que les JO démarrent dans 100 jours, puisque tout le monde ne parle que de ça.
Ce n'est que le début.
Cher Amaury, vous ne parlerez pas de ça, mais de crypto et de Web3 dans BFM Crypto, le club, à 15h, 21h30 et n'importe quelle heure en podcast, le programme.
On en a déjà parlé dans cette émission, Lorraine, avec les événements malheureux géopolitiques de ce week-end. Le Bitcoin a un peu corrigé, donc pas mal de personnes disaient « Ah oui, mais non, en fait, le Bitcoin, c'est pas une valeur refuge, etc. L'or, c'est mieux. » Donc on va y voir plus clair, on va essayer de chiffrer tout ça, de débattre un peu et de voir les points communs entre l'or et le Bitcoin et éventuellement aussi les oppositions. Et on parlera pour finir de Bitcoin et de souveraineté. Voilà, on parle de tout ça à 15h.
Le programme, voilà, le Bitcoin valeur refuge, oui ou non? Réponse à 15h. On se quitte avec le Bitcoin qui se négocie autour de 63 364 dollars. Très bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.